Avec Éric Laverdure, le 7.
88.3, c'est FAC.
Oui, le 7 de retour à 8h16. On remercie nos deux étudiants qui sont venus nous parler d'écologie et d'éco-activisme. Et une autre façon de faire aussi de l'activisme, eh bien, c'est de penser à des manières autres de faire de l'agriculture. Et justement, pour parler des événements reliant à cette association-là, on parle avec Léon Bibeau-Mercier, président de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, le CAPE. Bon matin, Léon.
Bon matin.
Alors, Léon, tout d'abord, c'est ça. Alors, c'est la coopérative d'agriculture de proximité écologique. Il y avait un événement il y a 2 semaines, justement, qui a permis la rencontre. Ça a été la 15e édition de votre rendez-vous automnal pour la fin de semaine du 25 au 27. Alors, l'événement a enfin été de retour après 2 ans de pause causée par la pandémie. Quelle était l'ambiance lors de ce retour de cette activité-là qui a réuni près de 200 personnes du monde agricole?
Oui, laisse-moi t'expliquer rapidement ce qu'est la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique.
C'est bon, c'était ma prochaine question.
Oui, donc c'est un regroupement de fermiers et de fermières qui pratiquent différentes productions, mais qui ont la particularité de le faire souvent avec une certification biologique et de mettre en marché directement auprès des consommatrices, consommateurs. Donc, d'où le terme proximité. La plupart de ces gens-là, effectivement, font des légumes bio, hein, les fameux paniers bio. Mm-hmm. Et donc, ça fait 14 ans, effectivement, qu'on fait un rendez-vous automnal qui est comme un espèce de happening automnal à la fin de la saison où on se rencontre pour fêter la fin de la saison, se redonner un peu de chaleur puis de courage pour la prochaine à venir. Puis en même temps, c'est un moment d'échange technique souvent d'assez haut niveau, qui est basé dans le fond sur l'acquisition puis le partage de connaissances par les pairs, en fait. Donc c'est souvent sous la forme d'échanges fermier-fermière à fermier-fermière.
Et justement, c'était comment après 2 ans de pandémie, ce grand retour-là, cet événement-là? Comment a été le happening, justement? Est-ce que tout le monde était de retour? Est-ce que malheureusement, il y a eu des gens qui ont changé de métier? Comment ça s'est passé un peu?
Ça a été une année effectivement un peu particulière du point de vue de la météo, puis mm-hmm. du point de vue aussi de la mise en marché, je vous dirais. On a comme un rajustement post-pandémie de ce côté-là. Donc, ça a été plusieurs défis pour les fermiers et fermières pendant la saison. Puis également, c'est vrai que ça fait même presque 3 ans, en fait, qu'il n'y a pas de rendez-vous en personne. Et la particularité, c'est que souvent, les fermiers et fermières travaillent un peu chacun de leur côté chez eux. Donc, ils n'ont pas énormément d'occasions de rencontres en personne comme ça. Et donc, ça faisait très longtemps que c'était arrivé et tout le monde était vraiment très heureux, voire certains émus de pouvoir enfin le faire.
Et voilà. Quelle sorte d'activité qu'on peut retrouver justement au rendez-vous automnal du CAPE? Est-ce que c'est... tu l'as dit tout à l'heure, il y a des activités de passation de connaissances, justement, d'échanges de connaissances et d'échanges de techniques. Est-ce qu'il y avait des activités précises qui étaient organisées? Un exemple peut-être pour donner l'eau à la bouche à des jeunes qui voudraient peut-être se lancer en agriculture sur le campus?
Ouais, ben dans le fond, on essaie de garder d'abord l'événement le plus simple possible. On fait ça dans on a trouvé le plus gros camp de vacances à peu près au Québec qui était capable de nous accueillir, de loger les 200 personnes. On veut pas faire ça sous la formule, disons, d'un congrès un peu plus sérieux ou un peu plus cher aussi, là, il faut le dire. On fait comme un gigantesque potluck. Au début, quand on a commencé ça, on pensait jamais que ça allait fonctionner à 200, 300 personnes. mais donc, tout le monde amène de la nourriture pour fin de semaine. On a toujours en masse de nourriture. C'est le meilleur potluck que j'ai jamais mangé. Fait que d'un, ça, c'est un peu l'esprit, dans le fond, dans lequel on fait cet événement-là, le plus simple, le plus esprit de rassemblement, disons, feu de camp, chalet, hein, si on veut, d'une part. Et après ça, donc, on a des activités de réseautage, donc des activités de connaissance, justement, entre les personnes, parce qu'il y a souvent des nouvelles personnes qui viennent. Ensuite de ça, ben, par exemple, un exemple d'activité dont je parlais d'acquisition, de partage de connaissances par les pairs, c'est qu'il y a un atelier où on partage nos résultats d'essais sur des variétés de légumes.
Okay.
Donc, par exemple, je sais pas, moi, j'ai essayé un concombre de la variété A. Les clients ont trouvé qu'il y avait pas un super bon goût, puis moi, j'ai trouvé que le rendement était pas super bon de toute façon. L'autre personne dit, hey, c'est vrai, moi aussi j'ai réalisé que finalement cette variété-là, c'était pas incroyable. Fait que là, donc c'est le genre de choses, le genre d'informations qui se trouve pas vraiment ailleurs que dans la communauté agricole, finalement, ce type d'infos-là.
Ben non, effectivement.
Après, souvent, on met souvent sur des ateliers, des tables rondes, justement. ou sur des panels où souvent on va venir mélanger l'expérience des fermiers-fermières avec ceux d'experts invités dans le fond sur un sujet en particulier. Donc par exemple, on a beaucoup échangé sur des cultures hivernales en serre sans chauffage cette année. On a fait aussi un atelier sur du travail réduit du sol en maraîchage, ce qui est un peu plus rare. Mm-hmm. Et puis on a eu l'occasion de lancer aussi pendant cette fin de semaine-là un wiki maraîcher. Un wiki maraîcher, donc, qui est une plateforme collaborative, évolutive de connaissances en maraîchage biodiversifié, dans le fond. Puis qui inclut également une plateforme sur des machines spécialisées pour le maraîchage biodiversifié de petite surface. On a plusieurs de nos membres qui conçoivent des machines. On fait des ateliers, nous, collectifs, là, pour en construire. Donc, on a aussi regroupé ces connaissances-là sur cette plateforme-là.
Wow, effectivement, un bel endroit, justement, de coopération et d'échange. Et, justement, à la vue de la COP15 qui se déroule présentement à Montréal sur la biodiversité, je me demandais comment va l'agriculture de proximité écologique au Québec? Est-ce que tu trouves que dans les dernières années, avec ce comme de retour à la terre qu'il y a eu pour certaines personnes à cause de la pandémie, d'aller rencontrer les gens qui font pousser, en fait, nos produits alimentaires, est-ce que tu trouves que dans les dans la dernière année, il y a comme eu un regain justement de l'attention portée à cette agriculture de proximité-là?
Effectivement, pendant les deux années de pandémie, on a vu un gros regain d'intérêt de ce côté-là. Moi, je dirais qu'il y a un rajustement post-pandémie où okay. Il reste que les gens reviennent un petit peu dans des habitudes anciennes. L'agriculture de bio de proximité au Québec, c'est environ 2,5% des achats alimentaires. On peut avoir l'impression que ça prend énormément de place, disons, dans le discours, la vision qu'on veut avoir de l'agriculture. Mais quand on confronte la présence que ça a dans le discours par rapport à la place que ça prend vraiment en volume de production, on se rend compte qu'il y a là une certaine dissonance. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait de nos membres qui fassent la une dans les médias, qui partagent leurs pratiques, qui soient mis de l'avant, mais dans les faits, c'est un modèle qui demeure encore très minoritaire. Et dans un contexte, par exemple, de la COP15, où on a des enjeux par rapport à la biodiversité, notamment, et les autres enjeux, le changement climatique, etc., nous, on est vraiment convaincus que le modèle bio de proximité, c'est un modèle qui est en mesure de répondre aux attentes de la société envers son agriculture et qui est en mesure de répondre aux défis, notamment de biodiversité, de changement climatique, auxquels il va falloir faire face. Donc, ce qu'on souhaite, au final, nous, c'est que, au-delà de la place que ça prend dans l'image, dans le discours, c'est que, entre autres, dans la vision de la politique agricole, dans la vision gouvernementale, on mette les moyens nécessaires pour que ça se concrétise.
Et sinon, ben justement, c'était vous avez fait votre activité, votre grand rendez-vous automnal de la fin de semaine, il y a deux semaines. Qu'est-ce qui est ressorti de cette fin de semaine-là? Comment va le moral des agriculteurs également? Parce qu'on le sait que c'est pas très jojo des fois dans tout ce gros marché-là. Là. Comment vont les gens? Qu'est-ce qui est ressorti justement de ces rencontres-là? Là?
Ben, pour nous, ça fait ressortir toujours effectivement l'importance de la solidarité, de la coopération. Le milieu maraîcher, c'est un milieu traditionnellement qui est un petit peu plus individualiste, un petit peu plus compétitif peut-être. Et c'était une des raisons pour laquelle la coopérative a été fondée à l'époque. Et il y a quelqu'un qui soulignait récemment qu'on a un climat de soutien, de partage assez unique au Québec en maraîchage bio, justement à cause des liens qu'on a tissés, alors que c'est un milieu un peu plus traditionnellement compétitif. Donc, je dirais que ces liens-là qu'on a tissés au fil du temps, les événements comme le rendez-vous automnal puis tout ça, c'est de nature beaucoup, je pense, à atténuer les difficultés ou en tout cas permettre aux fermes de surmonter les difficultés qui sont un peu inhérentes au secteur, d'une part. Et c'est là aussi pour nous la promesse de l'agriculture bio de proximité, c'est que ce lien-là direct que les gens entretiennent avec les fermes, ça nourrit beaucoup quand même les agriculteurs. Et pour nous, c'est pour ça qu'on pense que c'est un modèle qui, dans son ensemble, permet de répondre à beaucoup d'attentes, hein, diminuer l'isolement, permettre d'entrer en contact directement avec les gens, puis de l'autre côté, répondre à certaines attentes environnementales, conscientiser les gens, etc.
Et en terminant, quels sont les projets pour à venir, en fait, pour la coopérative, pour l'agriculture de proximité écologique? Est-ce qu'il y a des activités prévues bientôt, un marché de Noël? Bref, c'est le temps de mettre de l'avant vos activités.
Alors, il y a toujours l'abonnement aux paniers d'hiver qui sont un petit peu moins connus, hein, donc des paniers de légumes bio d'hiver. Donc, sur fermierdefamille.com, il est toujours possible de trouver une ferme et de s'abonner, d'une part. Et puis, d'autre part, dans les activités à venir, on travaille très fort en ce moment en Estrie sur un centre d'entreposage et de conditionnement collectif pour des légumes. Donc, on espère que dans la prochaine année, il y a quelque chose là-dessus qui va débloquer. Puis, je souligne que l'Estrie est une région particulièrement fertile en initiatives, disons, agricoles un peu alternatives. Et puis, notamment, on a beaucoup de gens, par exemple, en environnement à l'Université de Sherbrooke qui s'intéressent à ça, mais il y a aussi un nouveau programme en agriculture, disons, un peu différent qui s'est ouvert à l'Université Bishop's. Alors, il y a un très grand dynamisme de la communauté agricole à Sherbrooke qui est dans les alentours et on est très heureux de ça.
Ben oui, on espère que ça va faire des petits, justement, et qu'il y aura plus de membres au sein de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Léon Bibeau-Mercier, président du CAPE. Vous pouvez avoir plus d'informations au cape.coop pour en savoir un peu plus, justement. Et Léon, c'était un plaisir de te parler ce matin. Merci encore.
Merci, Eric. Bonne journée.
Bonne journée à toi aussi. Et de notre côté, 8h20.